Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Bonjour mesdames et messieurs et merci de nous écouter sur Canal Académie. Nous vous proposons aujourd'hui une série d'émissions sur un sujet passionnant, peu connu du grand public, à découvrir avec Pierre Brunel et ses invités. Il s'agit de la littérature générale et comparée. Vous l'aurez deviné, la littérature comparée nous conduira auprès des littératures antiques, modernes, européennes, étrangères. On évoquera leurs sources, leurs motifs, leurs influences réciproques, leurs échanges. Au fil de nos rendez-vous à venir, nous retrouverons Ulysse, Don Quichotte, Faust. Nous partirons avec les écrivains voyageurs passifs, vous savez, ceux qui voyageaient seulement devant leur bureau, mais aussi les autres qui parcouraient réellement le monde. Nous parlerons enfin d'art, de musique, de peinture. Nous allons d'ailleurs aujourd'hui parler un peu de musique et de littérature comparée. Mais il s'agit de présenter la littérature comparée, son historique, sa dénomination. Pierre Brunel et Sylvain Menant sont avec nous pour nous éclairer. Qu'entend-on par littérature comparée? Quels sont ses champs d'études, ses méthodes, ses initiateurs, ses théoriciens? Le mot n'est pas nouveau, je crois, puisque la pratique non plus. La première chaîne de littérature étrangère date de 1830 à la Sorbonne et celle de littérature comparée de 1925. Pierre Brunel, vous avez eu la gentillesse de venir déjà pour évoquer le mythe de Don Juan. Et aujourd'hui, nous allons creuser la présentation de la littérature comparée. Pierre Brunel, vous fûtes professeur à l'université Paris 4 Sorbonne. Vous avez dirigé le département de littérature française comparée de 1982 à 1989 et vous êtes l'actuel directeur des cours de civilisation française à la Sorbonne. Vous avez fondé le Centre de recherche en littérature comparée en 1981. Vous en avez été le premier directeur et vous êtes actuellement le président du Collège de littérature comparée que vous avez fondé en 1995. Juste une petite formule que j'ai beaucoup entendue évoquer parmi vos amis académiciens. Vous êtes le pape de la littérature comparée. Bonjour Pierre Brunel.
Bonjour madame, et cette expression évidemment me fait rougir.
Bonjour monsieur Sylvain Menant.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et vous êtes un grand 18e-iste. Et cette fois-ci, je me tourne vers Pierre Brunel. Quel est votre lien, Pierre Brunel, avec Sylvain Menant et la littérature comparée?
Si je puis dire, il y a d'abord un lien personnel entre nous. Nous étions en classe d'Hippocagne au lycée de Poitiers ensemble, puis en classe de Cagne au lycée Louis-le-Grand. Nous nous sommes retrouvés à l'université. Vous faisiez allusion à l'UFR de littérature française et comparée de Paris 4 Sorbonne. Nous en étions les deux directeurs. Bref, un long compagnonnage et un compagnonnage qui se fait beaucoup plus sous le signe de la littérature comparée qu'on ne pourrait le penser. C'est ainsi que l'une des dernières thèses dirigées par Sylvain Menant, celle de Guillaume Métayer sur Voltaire et Nietzsche, ou Nietzsche et Voltaire, je ne sais plus exactement.
Oui, c'est Nietzsche et Voltaire. Oui.
Thèse maintenant publiée avec une préface de Marc Fumaroli et qui vient d'être couronnée par un prix important, a été dirigée par Sylvain Menant.
De quand date cette expression, Pierre Brunel? Et à partir de quand est-elle devenue usuelle, la littérature comparée?
Alors je vais essayer de m'expliquer aussi simplement que possible sur ce point, qui va être déterminant, je crois d'ailleurs, pour la conduite de cette première émission. Il y a eu, au début du 19e siècle, et même à la fin du 18e siècle, une sorte de mode, pour ne pas dire de manie. On comparait tout. On voulait tout comparer. Hein. Il y a eu des ouvrages de comparaison scientifique, il y a eu des ouvrages de comparaison morale. On sait mal, par exemple, que l'essai sur les révolutions de Chateaubriand a failli s'appeler « Histoire des révolutions comparées ». Voilà. Et alors, je pense qu'on en est venu à cette expression « littérature comparée » à cause de cela. d'une manière quasiment spontanée, sans qu'il y ait chez ceux qui ont mis en place et sinon mis en œuvre cette expression, une volonté délibérée de pratiquer ce que nous appelons aujourd'hui littérature comparée. À telle enseigne que tout au long du XIXe siècle, dans l'enseignement supérieur français, ce n'est pas l'expression littérature comparée qui a été l'expression officielle, c'était l'expression littérature étrangère, soit au singulier, soit un peu moins souvent au pluriel. Les différentes chaires dans les universités, à commencer par celle de la Sorbonne en 1830, étaient chaires de littératures étrangères. Et le changement s'est produit en France. Au début du XXe siècle, vous signaliez tout à l'heure que la première chaire de littérature comparée proprement dite a été créée en 1925 à la Sorbonne, parce que l'expression devenait non seulement une expression en l'air à côté d'une expression officielle, mais devenait l'expression officielle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important de placer assez tôt, je crois, l'évocation de Paul Hasard, considéré par nous tous encore aujourd'hui comme un des plus grands comparatistes français, même s'il n'a pas été, à strictement parler, professeur de littérature comparée.
Sylvain Menant, vous avez travaillé sur...
Oui, Paul Hasard, en même temps qu'il est un des fondateurs de la littérature comparée en France, est aussi un des fondateurs des études modernes sur le XVIIIe siècle. Et son livre principal, le plus connu, qui est encore disponible en livre de poche, il a été republié en livre de poche en 1994. Il est disponible en ligne aussi, on peut le lire sur le net. Ce livre, « La crise de la conscience européenne, 1680-1715 », ce livre continue à être une des sources des études 18e.
Paul Hasard, précisons, est un homme du 19e. Quelles sont ses dates?
Bien plus que ça.
Oui, c'est un homme du XXe siècle. Il est mort en 1944. Oui.
Né, je crois, en 1878.
C'est ça. Oui. Et son œuvre principale, La crise de la conscience européenne, date de 1935. Mais c'est un livre ancien par rapport, évidemment, à l'extraordinaire production scientifique qui s'est manifestée depuis. Mais en même temps, c'est un livre moderne, d'une certaine façon. Et alors, ce qui est tout à fait frappant, et je voudrais sur ce point continuer ce qu'a dit Pierre Brunel il y a un instant, ce qui a fondé en réalité les études 18e modernes, c'est le point de vue de la comparaison. Car Paul Hasard s'est attaché à étudier une période 1680-1715, c'est le sujet de son livre « La crise de la conscience européenne », une époque qui est une époque de comparaison, une époque où les Français, en particulier, qui vivent dans un monde culturel franco-français, fermé d'une certaine façon, s'ouvrent extraordinairement brillant et qui a une très grande influence dans toute l'Europe, ce monde français s'ouvre à l'examen de ce qui se fait dans les autres pays et se laisse influencer par cette production intellectuelle des autres pays, en particulier de l'Angleterre, qui va avoir une très grande influence intellectuelle en France, mais aussi de l'Italie, de l'Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas, de la Russie même. Et c'est cette circulation des idées qui amène à des comparaisons continuelles des concepts, des morales, des idées politiques, des idées sur l'art aussi. C'est cette comparaison foisonnante à travers toute l'Europe qui crée un nouvel esprit, un esprit ouvert dont Paul Hasard montre la naissance et l'influence. Et un esprit ouvert dans lequel nous vivons encore. C'est l'idée qu'il...
Oui, au XVIIIe siècle, il y a vraiment eu une rencontre entre l'érudition et le goût des voyages. Et est-ce qu'on peut dire exotisme ?
Ça peut aller jusque-là.
Ah oui, absolument. Il y a une très grande curiosité pour les mondes exotiques et d'une certaine manière... On examine les voisins et soi-même comme des mondes exotiques. Hein, c'est le sujet des lettres persanes. Hein, regarder Paris comme une ville exotique. Et c'est ce regard de comparaison qui crée l'esprit nouveau.
Donc, Hasard parlait de Montesquieu, parlait de Lessing, parlait de tous ces grands...
Voilà, absolument. Ce livre, il y a trois grandes parties dans ce livre savant. C'est un livre d'une extraordinaire érudition qui commence par montrer la naissance d'un esprit nouveau, avec justement cette curiosité pour les mondes extérieurs et cette comparaison entre la France et les autres peuples, et pour chaque peuple, avec les peuples voisins. Et puis, il montre aussi la diversité de l'Europe à ce moment-là. C'est cette curiosité pour la diversité, et lui paraît caractéristique de l'esprit nouveau qui naît. Dans une seconde partie, il montre que ce qu'il y a de plus décisif, c'est le développement du doute, du doute généralisé dans tous les domaines.
Ce qui est une avancée pour une civilisation, d'oser le doute.
Voilà, c'est ça, une avancée, oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est une avancée très troublante pour tout le monde. Tu vois, et ce doute qui va porter sur les questions religieuses d'abord, c'est fondamental. L'interrogation sur le message biblique, sur les églises, sur l'ensemble des théologies catholiques et protestantes en particulier, le doute sur les morales, sur les comportements moraux, sur les liens sociaux, sur les interdits de toute espèce. Donc il y a une vague de doutes extrêmement troublante, et Paul Hasard, dans la troisième partie, montre que pour sortir de cette situation inconfortable, on est en train d'inventer un homme nouveau qu'il appelle l'honnête homme, un homme qui est marqué par le goût de la raison, mais aussi par la sensibilité, par l'imagination. Il y a, dans sa troisième partie, assez optimiste, il montre la naissance d'un homme moderne qui assume ce doute et le dépasse d'une certaine façon.
On est passé de l'honnête homme classique du XVIIe à l'honnête homme moderne du XVIIIe.
C'est ça, c'est ce que Hasard nous dit. Oui, c'est ça. Mais alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ce livre donc est d'une science étonnante. Il y a trois tomes dans l'édition originale, deux tomes de texte et un tome entier de notes et de bibliographie, parce que il voulait fournir, d'abord il avait énormément travaillé, et ce livre a été conçu pendant ses années d'enseignement au Collège de France, et très visiblement il est marqué par cet enseignement, et il voulait fournir aux chercheurs ultérieurs les matériaux pour prolonger son travail. Donc il y a tout un volume de références. Mais tout cela est porté avec une allégresse extraordinaire. C'est un livre absolument passionnant, très facile à lire, très gai à lire même, parce que Paul Hasard sait faire quelque chose que les grands professeurs savent faire, c'est-à-dire redonner vie à la pensée et au discours d'écrivains qui sont morts depuis longtemps. Et ce que pratique Paul Hasard très largement dans son livre, c'est la prosopopée. Il parle à la place des écrivains. Il fait parler Locke, il fait parler Chefferet, il fait parler Bell, et il leur donne une parole amusante souvent, n'est-ce pas, très
vive. Il veut pas se prendre pour, mais il récite. Non. Il a un côté récitateur.
Récitateur, mais en fait, il transforme un peu les textes pour les rendre plus percutants. Il ne cite des auteurs que ce qui va piquer la curiosité des lecteurs. Par exemple, quand il parle de Locke, il étudie longtemps un texte très important de Locke qui fonde l'idée de tolérance en Europe, un texte de 1689, l'Epistola de Tolerantia. Et voilà comment il résume. « Songez, s'écriait Locke, que la tolérance est l'essence même du christianisme. » Voilà, c'est reprendre ce que dit Locke, mais en le résumant, le condensant d'une manière très vivante.
Donc Hasard est un des initiateurs de la littérature comparée.
Absolument. C'est un grand livre, me semble-t-il, quoique je ne sois pas juge pour dire si c'est de la littérature comparée, mais c'est évidemment un grand livre de littérature comparée, parce qu'il renouvelle complètement la vision qu'on avait du mouvement des idées en France aussi, mais dans l'Europe en général, à la mouvement des idées de la fin des 30 dernières années du règne de Louis XIV, par la confrontation de la production française, de la production allemande, anglaise, hollandaise, italienne. Cette confrontation continuelle est passionnante, et en même temps, elle aide à comprendre comment la pensée et les idées ont évolué.
Pierre Brunel, Paul Hasard, pourquoi est-il aussi important ?
Alors, il est important à cause de ce livre considérable dont Sylvain Menant a parlé, « La crise de la conscience européenne », livre réédité en livre de poche, comme il l'a dit. Et je voudrais signaler au passage que la table des matières extraordinairement développée qui a été placée, inventée en quelque sorte pour le livre de poche, en facilite encore grandement la lecture pour le public. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que dans un ouvrage considéré comme fondateur, le premier Que sais-je, consacré à la littérature comparée en 1951, dont l'auteur est l'un de nos maîtres, Marius-François Guyard, la place de Paul Hasard est non seulement considérable, mais première. Et si vous voulez, j'aimerais citer les premières lignes des pages qu'il consacre à Paul Hasard dans ce livre. Plutôt que d'illustrer par des exemples isolés ces différents genres de questions, donc les questions comparatistes, dégageons les grandes lignes de l'œuvre qui domine toutes les recherches de littérature comparée. Celle de Paul Hasard, 1878-1944. Aussi bien, si elle n'aborde pas tous les problèmes, son caractère synthétique lui en fait-il poser de toutes sortes. En parcourant ces grands livres, on découvre les ressources et la possibilité de cette histoire européenne des littératures, but et justification du comparatisme. Donc vous voyez que c'était pour Marius-François Guyard, à cette date de 1951, la tête véritablement de la littérature comparée en France, quelques années après la mort de Paul Hasard. Et j'en profite pour rappeler au passage qu'en 1940, Paul Hasard avait été élu membre de l'Académie française.
Sylvain Menant, vous nous avez bien présenté tous ces tomes et tous ces sujets. Qu'est-ce que vous lui donnez encore comme domaine, comme champ d'action dans la littérature contemporaine, ce Paul Hasard ?
Je suis frappé par le fait que pour lui, il ne s'agit pas seulement de rapprocher, de comparer en profondeur des textes que nous appelons littéraires. Dans le texte que Pierre Brunel vient de lire, il s'agissait des littératures européennes, mais la conception que se fait Paul Hasard, et que se fait peut-être la littérature comparée, je ne sais, c'est une conception très large de la littérature. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, en réalité, y entre. Deux exemples amusants. Enfin, quand Paul Hasard veut présenter la diversité de l'Europe de la fin du XVIIe siècle, il choisit un ballet d'un poète bien oublié qui s'appelait Oudard de la Motte, et qui avait fait livrer de ce ballet. Et dans ce ballet, qui s'appelait L'Europe galante, il y avait des danseurs qui représentaient les différentes nations. Et chaque danseur avait un costume, mais aussi un comportement qui correspondait à ce que vers 1691, on attribuait comme caractère à chaque nation. Par exemple,
il y avait des typologies.
La typologie, le français infidèle et gracieux, etc. Et un autre exemple qui me paraît amusant aussi, c'est il y a tout un chapitre très intéressant sur les sorciers. La lutte contre la croyance aux sorciers et à leur pouvoir inquiétant apparaît comme un des enjeux de ce mouvement des idées à la fin du XVIIe siècle. Et alors, Paul Hasard trouve dans les différentes littératures des textes qui concernent les sorciers. Alors, il s'agit, par exemple, en Allemagne, il trouve un professeur allemand, Christian Thomasius, qui consacre toute son énergie à plaider pour les sorciers dans les procès qui leur sont consacrés. Et il écrit un livre sur ce sujet pour écarter les accusations dont un certain nombre de personnes étaient chargées. Et alors il en fait un portrait extraordinaire, avant de résumer son livre, enveloppé de sa toge professorale, engoncé dans la vaste perruque dont les boucles retombaient sur ses épaules, grand et fort, voilà Heinsius qui entre dans son combat. Ou bien il va en Hollande, et en Hollande il trouve aussi un défenseur des sorciers. C'est Balthazar Becker. Alors ce Balthazar Becker, un pasteur cartésien qui écrit un livre contre les démons, toutes sortes de superstitions, y compris celles qui concernent les sorciers, a aussi droit à son portrait, car tous ces acteurs de la vie intellectuelle, Paul Hasard les fait vivre avec leur réalité historique, avec leur physique, avec leur choix de vie aussi. Un grand menton carré, une vaste bouche, un énorme nez, des yeux brillants sous des sourcils épais. Voilà Becker, le défenseur hollandais des sorciers. Et puis, encore un exemple, j'arrête là, la galerie des portraits, mais en France aussi, il y a des gens qui luttent contre ces superstitions. Et c'est Boileau avec son bon sens, qui envoie promener ceux qui lui parlent du pouvoir extraordinaire d'un sourcier, Jacques Aymar, qui défrayait la chronique parce qu'on lui prêtait le pouvoir de deviner toutes sortes de choses. Boileau se moque de tous ces gens-là en disant « il y a tant de sots et de toutes sortes qu'on comprend que les sorciers aient de crédules zélateurs ».
En vous entendant, je me rendais compte que Paul Hasard ne s'occupait pas que du grand genre littéraire, mais qu'il faisait œuvre d'ethnologue.
D'une certaine manière.
En s'occupant de ces, dans tous ces pays européens, parce que je crois qu'il est resté dans la sphère européenne. Oui, Hasard, oui, il n'a pas été plus loin.
Eh bien non. Permettez-moi de vous corriger sur ce
très
point.
Très bien, très bien.
Car c'est peu connu. Paul Hasard est allé en Amérique latine, et surtout la chair de Paul Hasard au Collège de France, celle qu'il a occupée à partir de 1925, avait pour intitulé approximatif, je dis ça de mémoire, « Études comparées des littératures d'Europe méridionale et d'Amérique latine ». Donc il avait un champ beaucoup plus vaste qu'on ne le croit, italianiste à l'origine, auteur d'un livre sur Don Quichotte, connaisseur même des littératures d'Amérique latine de langue espagnole. Voilà. Donc, pas du tout seulement celui que nous avons tendance, à cause de ce livre célèbre, La crise de la conscience européenne, à cause aussi de son livre posthume, La pensée européenne au XVIIIe siècle de Montesquieu à Lessing, de circonscrire à l'Europe et même à une petite Europe. C'était un esprit extrêmement vaste.
Il était très, très en avance sur son temps, de ce fait.
Et en même temps, un héritier. Puisque le 19e siècle avait vécu sur cette grande opposition du Nord et du Midi. Oui. Et au Collège de France, il était justement le représentant des littératures du Midi, que ce soit le Midi de l'Europe, que ce soit le Midi de l'Amérique.
Mais Sylvain Menant, est-ce que c'est la fréquentation de Paul Hasard qui vous a donné à vous aussi le sens de toucher à tous les domaines, la poésie, les recherches sur Voltaire, le théâtre de Voltaire, et puis aussi vous avez écrit quelque chose dont le titre m'a beaucoup touchée. On va en parler pas très longtemps parce que le lieu n'est pas là, encore que ça s'appelle « Les châteaux littéraires ».
Oui, oui. C'est un sujet passionnant qui a une immense matière dans la littérature française, mais dans d'autres
et
littératures.
Et littérature comparée, donc.
Aussi, oui, c'est ça. Mais pour en revenir à Paul Hasard, c'est un héritier, mais c'est aussi un père des travaux modernes. Je suis très frappé de voir que, par exemple, aujourd'hui, il y a un débat très vif des deux côtés de l'Atlantique autour d'une vieille question qui est celle des origines de la Révolution française. Et dans ce débat, aussi bien ceux qui défendent l'idée d'origine intellectuelle de la Révolution française, surtout spinozistes, et ceux qui défendent l'idée qui est celle de l'école des Annales et de beaucoup d'écoles françaises, disons, d'origine culturelle de la Révolution française, les deux puisent en grande partie leurs problématiques et leurs matériaux dans le livre et dans les recherches de Paul Hasard. C'est tout à fait frappant de voir que ce débat contemporain d'aujourd'hui, n'est-ce pas, qui nourrit les pages polémiques des revues d'aujourd'hui, a sa source dans ce grand livre. C'était un grand érudit et comme beaucoup, je crois, de grands chercheurs, il rassemble non seulement des résultats fascinants, mais aussi des matériaux qui vont faire travailler longtemps leurs successeurs. Et en même temps, c'était un homme de conviction. Tout à l'heure, je faisais entendre la voix de Locke, par exemple, ou de Shaftesbury, à travers celle de Paul Hasard. Mais il y a aussi la voix de Paul Hasard dans ce livre, car ce livre est aussi un livre de conviction. Et je voudrais juste citer ce qu'il dit à propos de la révocation de l'édit de Nantes. Il écrit « Lorsque, au mois d'octobre 1685, Louis XIV révoqua l'édit de Nantes, il resta dans la logique de ses principes. Il fut seulement infidèle à l'esprit chrétien et il se trompa sur la nature de la conscience humaine. Celle-ci ne souffre pas violence, c'est sa noblesse, c'est sa gloire. L'extrême oppression ne fait que la révolter. »
Oui, c'était donc aussi un penseur.
Un penseur engagé d'une certaine manière. Oui.
Merci Sylvain Menon.
Au revoir.
Pierre Brunel, nous venons d'évoquer Paul Hasard avec Sylvain Menon, mais pourriez-vous faire un petit retour en arrière, s'il vous plaît ?
Alors, je pense que la chose est non seulement possible, mais facile. Sylvain Menon a parlé de la réflexion actuelle qui se nourrit de la pensée de Paul Hasard et en particulier de ses interrogations sur la Révolution française. Or, il se trouve que le fondateur de ce que nous appelons aujourd'hui littérature comparée, et qui était donc plutôt littérature étrangère au XIXe siècle, est un homme qui non seulement a traversé la Révolution, mais qui a participé. Il se nomme Claude Fauriel, Il a été prêtre avant 1789, il a été un ardent révolutionnaire pendant la période de la Révolution. Par la suite, il s'est rangé, il a eu des fonctions officielles et il s'est trouvé en 1830 titulaire de la première chaire de littérature étrangère à la Sorbonne. Et nous le considérons, nous, comparatistes, comme véritablement le fondateur en tant qu'universitaire de notre discipline.
Était-il resté prêtre ?
Non.
Il avait jeté la soutane au moment de la Révolution.
Exactement comme le père de Baudelaire. Exactement la même chose. Alors, il se trouve que Claude Fauriel a enseigné à la Sorbonne de 1830 à 1844. Il a été membre de l'Institut, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et il avait des assistants, ce qui n'existe plus aujourd'hui, ce qui existait encore dans ma jeunesse. Et parmi ses assistants, deux d'entre eux qui auront un très grand avenir universitaire, Frédéric Ozanam, qui après avoir été son assistant, sera son successeur.
Alors lui, catholique.
Catholique, lui.
Béatifié.
Et Philaret Challes, qui sera professeur au Collège de France, qui sera professeur de littérature française et non de littérature comparée ou de littérature étrangère au Collège de France, mais qui a maintes fois utilisé l'expression littérature comparée et qu'on peut même considérer comme l'un de ceux qui ont lancé cette expression. Je voudrais emprunter à Frédéric Ozanam et à un très beau texte qu'il a écrit à la mémoire de son maître, Claude Fauriel, les lignes que je vais lire. Ses amis le connaissaient pour un maître admirable dont il fallait forcer les scrupules et recueillir du moins la parole à défaut de ses œuvres trop attendues. Ils devinrent puissants et vers la fin de 1830, M. Fauriel se laissa nommer, non sans résistance, à la chaire de littérature étrangère fondée pour lui à la faculté des lettres de Paris. Presque, je dirais, comparatiste malgré lui, il se laisse nommer, il n'a pas voulu la création de cette chaire, il n'a pas cherché du tout à l'obtenir, mais ses amis ou des gens puissants ou des gens qui l'estimaient ont considéré que c'était la place qui lui revenait. C'était un homme d'une très grande culture, effectivement, connaissant aussi bien les littératures antiques que les littératures modernes, les littératures du Nord que les littératures du Midi, en particulier la littérature italienne. Il a traduit deux tragédies de Manzoni. Il s'était beaucoup intéressé à la Grèce moderne et on lui doit, c'est même l'ouvrage de lui qui reste le plus connu, une traduction des chants de la Grèce moderne.
Oui, parce que c'était l'époque de l'indépendance de la Grèce.
C'est ça, l'époque de la guerre de l'indépendance grecque. Et Ozanam, dans ce long texte qu'il lui consacre, fait une description minutieuse des cours qui étaient dispensés par Claude Fauriel à la Sorbonne. Il a voulu être son héritier et pas occuper en Sorbonne une place qui ne serait que celle du représentant de la société Saint-Vincent de Paul que nous connaissons. L'enseignement de Frédéric Ozanam était vraiment construit comme celui de Claude Fauriel. C'était un enseignement quadriennal, si je puis dire. Chaque année était consacrée à une des quatre grandes littératures entourant la France, jamais à la littérature française, anglaise, allemande, italienne, espagnole. Et Fauriel avait un sujet de prédilection, c'était la littérature italienne, en particulier Dante, comme ce sera le cas pour Ozanam. Je dirais que la seule différence entre eux est que Fauriel est connu aussi pour une grande curiosité en ce qui concerne la littérature provençale, curiosité qui ne semble pas avoir été partagée par Frédéric Ozanam.
Pourtant, il était né à Lyon. Frédéric Ozanam, c'est pas si loin.
Frédéric Ozanam était né à Milan. Sa famille était de Lyon. Il a enseigné à Lyon avant d'enseigner à Paris. Mais Frédéric Ozanam était né en Italie.
Par un hasard de trajet familial.
Par un hasard de trajet familial. Oui, absolument.
Donc Frédéric Ozanam, lui aussi, il a été responsable de la chaire de littérature comparée.
Frédéric Ozanam a été l'héritier donc, de la chaire de Claude Fauriel. Il l'a occupé de 1844 à sa mort prématurée en 1853. Et il a accompli une œuvre considérable dont on se rend compte quand on se plonge dans ses œuvres complètes. J'ai la chance de les avoir chez moi. Et quand on a la curiosité d'aller voir les documents inédits qui ont été conservés, j'ai ainsi pu consulter un cours entièrement inédit qui était consacré à Dante, traduction y comprise, car Ozanam avait aussi la volonté de retraduire les textes dont il parlait, et il a accompli un travail considérable de traduction de Dante.
Oui, quand on sait que la poésie de Dante est magistrale, c'est très dur, j'imagine, à traduire.
Absolument.
Plus un texte est nourri de poésie et fort, plus c'est difficile de le traduire.
Absolument, absolument. Il s'attaquait vraiment à forte tâche, mais une tâche qui le passionnait. Et puis alors Dante, évidemment, lui permettait de concilier sa propre foi et en même temps les études littéraires. C'était l'époque, vous savez, où à la Sorbonne, on ne dispensait pas des cours comme aujourd'hui pour préparer un étudiant de première année ou même un étudiant à l'agrégation. Il y avait des amphithéâtres remplis du grand public. Et un enseignement comme celui de Fauriel, et encore plus un enseignement comme celui d'Ozanam, était dispensé devant un public très vaste et très varié. Il a été un universitaire à part entière, on peut le dire. Et moi, je suis frappé en lisant ses œuvres complètes par la place qui occupe l'œuvre véritablement scientifique. Alors, je voudrais, si vous le voulez bien, faire un pas en avant et faire un correctif qui s'impose. Et là encore, dire quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment connu. En commençant, j'ai signalé cette sorte d'anomalie. Au XIXe siècle, on pratique la littérature comparée. Le mot comparé, je l'ai dit, était à la mode dès le début du siècle. Il est porteur de cette littérature comparée de fait, qui illustre, comme je viens de le dire, Fauriel ou Ozanam, même si leur titre officiel était professeur de littérature étrangère. Mais il y a d'autres pays où l'expression « elle » était bel et bien en place, où il existait dans les universités des professeurs de littérature comparée. Et si vous le voulez bien, je vais prendre ici un exemple qui n'est pas aussi connu qu'il devrait l'être et un exemple qui se trouve avoir une résonance actuelle. Je pense que parmi nos auditeurs, nombreux sont ceux qui ont lu le livre de Jacqueline de Romilly qui vient de paraître, ce livre si émouvant, consacré à sa mère, Jeanne Malvoisin, épouse de Maxime David, tué à la guerre en octobre 1914, et ayant vécu avec sa fille d'une manière presque constante, jusque dans les derniers moments évoqués avec tant de sobriété et tant d'émotion par Jacqueline de Romilly.
C'est un beau titre, juste Jeanne.
Jeanne. Et je découvre, en lisant ce livre, un nom qui m'était connu et qui ne m'était pas suffisamment connu. C'est très exactement page 23-24. La future maman de Jacqueline de Romilly, dans sa jeunesse, avait pour meilleure amie Marie Rode, fille d'un écrivain suisse, Édouard Rode. Voici comment Jacqueline de Romilly en parle dans ce livre. Peut-être Marie Rode suivait-elle aussi ses cours, c'est-à-dire les cours du Collège de France, cours de Bergson en particulier, où, autant que je me souvienne, Jeanne Malvoisin et son mari se sont rencontrés. Je n'en sais rien, parce que je l'ai connue bien des années après et qu'elle n'avait alors, à mes yeux d'enfant, tout au moins plus rien d'une intellectuelle. Elle avait épousé sur le tard un homme assez mal portant avec qui elle élevait des poules. J'ai peine à croire que ses ambitions de culture aient été tout à fait aussi hautes. Mais son milieu faisait une sorte de compensation. Édouard Rode, son père, était en effet un écrivain respectable et méritant, quoique sans grand talent, mais surtout un écrivain liant, hospitalier, sociable, qui aimait à s'entourer d'artistes. En 1894, Édouard Rode et sa famille étaient venus habiter Paris, rue de Passy. Jacqueline de Romilly habitait rue des Bauches avec sa maman. Et Édouard Rode, en fait, venait de Genève, où il avait pendant plusieurs années été professeur de littérature comparée à l'université. Nous avons de cet écrivain qui mérite plus de respect qu'on ne pourrait le penser. Nous avons trois grandes séries d'œuvres. Nous avons ces œuvres universitaires, je dirais, ces travaux de littérature comparée, qui sont ceux d'un homme qui essaie de relier la culture germanique et la culture française, d'un homme aussi qui essaie de relier la musique allemande et la musique française. C'est un homme qui aide à faire découvrir Wagner, qui aime à faire découvrir Brahms, qui aime à faire découvrir Schumann et d'autres grands compositeurs allemands. Il a été romancier, grand admirateur de Zola à l'origine, et puis évoluant vers un roman de type idéaliste. Il a été aussi un grand chroniqueur dans les journaux. C'est un homme dont la vie intellectuelle et sociale a été véritablement intense. Mais ce qui me frappe, c'est que, pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, il a été, lui, très exactement, professeur de littérature comparée. C'était son titre, à l'Université de Genève. Il n'était pas le premier titulaire de cette chaire. Il n'était pas non plus le dernier. Il y a une tradition comparatiste qui s'est continuée à l'Université de Genève. Et à l'avance, j'indique que un des grands comparatistes de cette université sera l'un des plus célèbres comparatistes actuels, Georges Steiner, auquel certainement nous ferons place dans la suite de nos entretiens.
Merci beaucoup Pierre Brunel. Nous allons effectivement poursuivre la suite de nos entretiens plus tard, mais auparavant, parlons des pauses musicales que vous avez choisies pour faire aussi dès maintenant distiller l'art et la littérature comparée par la musique.
Alors j'ai choisi une sonate de Brahms, puisque je viens de parler d'Edouard Rod et de signaler comment il a été l'un de ceux qui ont aidé à faire connaître la musique allemande en France et à faire aimer cette musique. C'est le deuxième mouvement d'une sonate pour violoncelle et piano de Brahms, son opus 99. L'autre exemple musical, il peut paraître plus inattendu, c'est un exemple purement français. Il s'agira du début du choral dans la célèbre partition de César Franck, prélude, choral et fugue. Et il se trouve que le fondateur de la littérature comparée proprement dite est le premier titulaire, cette fois-ci, de la chaire de littérature comparée proprement dite, Fernand Baldensperger, a écrit vers 1900 un ouvrage entièrement consacré à César Franck, dont il était un grand admirateur. Et ça me frappe beaucoup, moi qui ai une grande passion pour la musique, de voir que le comparatisme à ses débuts, que ce soit de la part d'un comparatiste étranger d'origine comme Edouard Rod, que ce soit de la part d'un comparatiste français comme Fernand Baldensperger, ait fait tant de place à la musique et ait tant aidé à faire connaître la musique dans son lien avec la littérature. J'aimerais à ce propos parler un peu de Fernand Baldensperger. Et là encore, nous conservons le lien avec Paul Hasard. En effet, et nous vivons encore là-dessus aujourd'hui, en 1921, Paul Hasard et Fernand Baldensperger ont fondé la Revue de littérature comparée. Revue de littérature comparée, dont je me trouve être aujourd'hui l'un des deux co-directeurs avec mon collègue et ami Daniel-Henri Pajot, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle. C'est vous dire si cette revue a eu de l'importance pour la discipline qui nous occupe, si elle est inséparable de la vie de la littérature comparée au XXe siècle. Fernand Baldensperger a été aussi le premier titulaire de la chaire proprement dite de littérature comparée à la Sorbonne en 1925 et curieusement, après avoir enseigné à la Sorbonne déjà en 1910. Je voudrais m'expliquer sur ce point. Fernand Baldensperger était alsacien d'origine. Quand, à la suite de la guerre de 1914-1918, l'Alsace-Lorraine a été rendue à la France, il a demandé à être nommé à l'université de Strasbourg et à y enseigner la littérature comparée. C'était pour lui un devoir d'alsacien. Puis, quand, de manière officielle, la chaire de littérature comparée, sous cette dénomination nouvelle, je le fais observer, a été fondée à la Sorbonne, elle lui est, je dirais, tout naturellement été reconnu, vous me direz, ça pourrait être Paul Hasard. Mais la même année, Paul Hasard se trouve élu, lui, au Collège de France, avec cette chaire à l'intitulé si différent dont j'ai parlé tout à l'heure. Curieusement d'ailleurs, d'un point de vue de carrière universitaire, Paul Hasard était plus considéré comme un spécialiste d'italien ou comme un spécialiste de littérature française du XVIIIe siècle que comme un comparatiste. C'est son œuvre qui l'a imposé comme comparatiste et c'est aussi le rôle, évidemment, qu'il a joué avec cette cofondation de la revue de littérature comparée en 1921 et avec parallèlement la création d'une collection, la Bibliothèque de littérature comparée, qui a été publiée par les éditions Champion d'alors, qui a commencé un tout petit peu avant la fondation de la revue, en 1920, et qui s'est poursuivie pendant de longues années avec un catalogue considérable, dans lequel on trouve des œuvres de comparatistes notoires, mais aussi, bien sûr, des œuvres de Hasard et des œuvres de Baldensberger. C'est là, par exemple, qu'a été publié en 1927 un livre de Baldensberger qu'on me donnait pour modèle à moi quand je voulais me lancer dans les études doctorales, un livre qui s'intitule « Orientation étrangère dans l'œuvre d'Honoré de Balzac ». J'ai eu la chance, tout récemment, de tomber sur ce livre dans un magasin d'occasion, au passage Verdot. Je l'ai immédiatement acheté, je m'en suis nourri, et c'est un ouvrage qui est parfaitement comparatiste, où Ferdinand Baldensberger montre, d'abord dans les débuts de Balzac, l'influence de Walter Scott, où il montre l'importance qu'a eu Dante pour Balzac, où il montre même une sorte de tentation des mille et une nuits dans l'œuvre de Balzac, où il montre les correspondances qui existent entre Balzac et certains écrivains allemands, Goethe d'abord, Hoffmann ensuite. Un sujet auquel on ne penserait peut-être pas immédiatement, sauf par ce sur quoi il faut terminer, c'est-à-dire la manière dont Balzac a été attiré vers ce que nous appelons encore aujourd'hui l'Europe de l'Est, à cause de Madame Anska.
Par amour.
Par amour. Et Baldensberger, justement, établit un lien entre le roman balzacien, l'élan donné par Balzac au roman, et le futur roman russe, Gogol, Dostoïevski.
Il fait un lien.
Il fait le lien lui-même, Tolstoï, Dostoïevski, Turgenev, etc. Tendant la main, en quelque sorte, à celui qui va écrire le roman russe à la fin du XIXe siècle, le vicomte de Vogüé, membre, autant que je me souvienne, par la suite de l'Académie française.
Merci beaucoup, Pierre Brunel, et à plus tard.
Merci. Merci.